En Angleterre. L'apport littéraire anglais est essentiellement composé de romans et de poésie. Le roman est dominé par le réalisme, roman d'aventure avec Daniel Defoe dans Les aventures de Robinson Crusoe, roman satirique et amer avec Jonathan Swift dans Les voyages de Gulliver. Tous deux critiquent de façon allusive les mœurs et les institutions. Le courant rationaliste des Lumières ouvre ensuite à une forme de sensibilité nouvelle dont le principal représentant est Samuel Johnson. Il essaye de fixer le vocabulaire anglais dans un dictionnaire et écrit des romans sentimentaux qui vont influencer la littérature européenne. Pamela ou la vertu récompensée, par exemple. James Macpherson s'inspire de la poésie médiévale pour composer des ballades sentimentales, longtemps prises pour des textes originaux qui ont une grande influence sur Goethe. Toutefois, William Wordsworth et Samuel Taylor Coleridge sont les véritables fondateurs du romantisme anglais au début du XIXe siècle, qui connaît son apogée avec Lord George Gordon Byron. Son œuvre est essentiellement marquée par le mal qui imprègne le monde et l'ironie, le poids de la faute et le repentir comme dans Manfred. Son engagement pour la liberté le conduit à mourir du paludisme lors de l'émancipation de la Grèce en 1824. Percy Bysshe Shelley se fait le chantre du panthéisme dans Prométhée délivré de 1819. Tandis que sa femme, Mary, est l'auteur d'un roman noir, Frankenstein ou le Prométhée moderne en 1818. Père de l'épopée historique, Sir Walter Scott chante l'Écosse des XVIIe et XVIIIe siècles avec Rob Roy ou l'Angleterre du XIIe siècle dans Ivanhoé. Le romantisme perd ensuite de sa vigueur. Le sentiment de la réalité triomphe chez Macaulay, légiste, auteur entre 1848 et 1861 d'une histoire d'Angleterre, et Charles Dickens, très populaire après la publication des aventures de Monsieur Pickwick en 1837. Aux États-Unis. Au milieu du XIXe siècle, les États-Unis assurent leur autonomie sur les plans artistiques et scientifiques. New York devient un centre intellectuel. Edgar Allan Poe est le maître incontesté de la nouvelle, avec ses histoires extraordinaires et « nouvelles histoires extraordinaires », traduites en français par Baudelaire. Mais il contribue aussi grandement au développement de la poésie, par l'audace de son imagination, comme avec Tamerlan et To Helen. Nathaniel Hawthorne s'illustre dans le genre symboliste, dans La lettre écarlate par exemple. Herman Melville, dont l'œuvre est extraordinairement variée, laisse Moby Dick, White Jacket, Pierre ou les ambiguïtés. En Italie, Alessandro Manzoni est l'auteur d'un grand roman romantique, Les fiancés, qui repose sur la fantaisie historique et la rigueur stylistique. Il exprime sa foi dans les hymnes sacrés publiés en 1822 et son patriotisme dans les odes, et des drames comme Adelchi, publié en 1822, reflet d'une inspiration typiquement romantique. Au Danemark, la littérature reprend avec Hans Christian Andersen des thèmes issus du folklore populaire et des légendes orales. Entre 1835 et 1872, des contes comme Le vilain petit canard, La petite fille aux allumettes ou Le rossignol deviennent vite des classiques de la littérature enfantine. En Russie, c'est l'éveil véritable des auteurs russes. Alexandre Pouchkine donne ses lettres de noblesse à la langue russe. Son roman en vers Eugène Onéguin, publié en 1830, décrivant l'aristocratie et son comportement social, donne naissance à une école, dont Mikhail Lermontov est le principal représentant. Avec ce dernier s'effectue le passage à la prose, aux bilines, les nouvelles, seulement esquissées par Pouchkine dans Boris Godounov, publié en 1840. Leur héritier spirituel, Nicolas Gogol, allie le romantisme à la profondeur de l'analyse psychologique. Le manteau en 1841, les âmes mortes en 1842 et le révisor en 1836 illustrent des types de personnages intemporels. Les récits réalistes et les mémoires d'un chasseur d'Ivan Sergueïevitch Tourguenieff sont très lus à Paris. La poésie du XIXe siècle. En marge, en opposition ou totalement isolée des courants dominants, se développent au cours du XIXe siècle des expériences poétiques. Mouvement de réaction contre le romantisme, le Parnasse se réfère au lieu mythologique où résident Apollon et les neuf muses. Autour de Théophile Gautier se regroupent Théodore de Banville, Auguste Villiers de l'Isle-Adam, Sully Prudhomme et François Coppée. Il revendique un souci d'impersonnalité et le culte du travail poétique et célèbre le beau sous toutes ses formes.
N'oubliez pas, le Parnasse contemporain. Le comte de Lille, auteur de Poèmes barbares, publié en 1862, José María de Heredia, auteur du recueil Les Trophées, publié en 1893, et Banville se regroupent en 1866 au sein de la revue Le Parnasse contemporain, Tude, publié en 1869. Ou François Copé, plus populaire et moins inaccessible dans Les Promenades et intérieurs en 1872.
Après une adhésion totale au mouvement romantique, Gautier a publié un manifeste en forme de poème, L'Art, 1857, prônant une place essentielle pour la forme et reléguant à l'arrière-plan toute idée. Le recueil Émaux et Camé, 1852, donne véritablement naissance à la théorie de l'art pour l'art, reprise par Banville, Petit traité de la poésie française, 1872. Charles Baudelaire choisit une voie nouvelle entre le romantisme et le Parnasse. Il veut réconcilier lyrisme et formalisme, conserver les sentiments du premier et la perfection du second, débarrassé du carcan des pures conventions poétiques. Ancré dans Paris, faisant place à la laideur, aux prostituées, à la mort, Les Fleurs du Mal, 1857, expose son atroce déchirement entre l'idéal et l'ennui de la vie réelle. Sa connaissance profonde de l'art et son admiration pour les impressionnistes donnent à sa poétique une dimension supplémentaire. Toute la production poétique d'Arthur Rimbaud se situe dans un intervalle de 8 années, 1868-1876, après lesquelles il n'écrira plus. Son génie précoce se manifeste dans Le bateau ivre et La lettre d'un voyant, et connaît une apothéose fulgurante avec Une saison en enfer, 1873. Rimbaud passe par plusieurs expériences pour tenter d'atteindre la perfection, depuis le poète voyant des années de vie commune avec Verlaine jusqu'au voleur de feu, nouveau Prométhée qui doit apporter à son art ce qu'il a rapporté de là-bas. Le Rimbaud des Illuminations livre un nouvel espace poétique, non plus sous la forme d'une tentative ordonnée, d'une succession voulue, mais comme une collection de visions. Isidore Ducasse, qui publie ses œuvres sous le pseudonyme du comte de Lautréamont, laisse une œuvre magistrale et étrange malmenant les figures classiques. Les Chants de Maldoror, 1869, ensemble de 6 chants d'une telle violence que la diffusion en sera suspendue l'année même de leur parution. Le personnage de Maldoror est un être bestial et sadique, en quête de la pureté originelle. Le réalisme. 1850-1880. Vers 1850 apparaît un nouveau courant qui s'oppose au courant alors en vogue, le réalisme. En France. Introduit par Stendhal, Honoré de Balzac et Gustave Flaubert, le réalisme apparaît en France vers 1830. Stendhal met en avant les déchirements de l'homme inadapté à son époque dans Le Rouge et le Noir, 1830, ou torturé par une gloire défunte dans La Chartreuse de Parme, 1839, aussi bien que les tourments de l'impuissance, Armance, 1827, œuvre emplie d'échos à Byron. Balzac construit un immense miroir, la Comédie humaine, titre collectif de presque tous ses romans où se mirent ses contemporains. Il est le peintre fidèle d'une aristocratie finissante qui croit encore compter sous la Restauration, 1815-1830, puis éloigné du pouvoir sous la monarchie de Juillet, 1830-1848. L'homme mérite selon lui une analyse presque scientifique. Sous le Second Empire, 1852-1870, une réaction se dessine contre les excès de l'introspection. Les artistes recherchent le laid, l'horrible ou le bizarre, à l'instar d'Edmond et Jules de Goncourt, la fille Elisa, sœur Philomène, Madame Gervaiset. Le roman réaliste atteint cependant son sommet avec Gustave Flaubert. La mise en scène d'une vie désolante de monotonie dans L'éducation sentimentale, 1869, ou les aspirations bourgeoises détrompées par la réalité terne du quotidien de Madame Bovary, 1856. Le goût de l'Antiquité conduit l'auteur à une somptueuse fresque, Salammbô, 1862, et celui de la connaissance à un dialogue ironique et savoureux, Bouvard et Pécuchet, 1881. En Allemagne, 3 tendances se dessinent. La conscience de la fin d'un monde est présente dans les romans de Karl Immermann, 1796-1840, surtout Les Épigones, et s'illustre au théâtre avec Christian Dietrich Grabe, 1801-1836, lyrique révoltée, Don Juan et Faust. La tendance critique est représentée par le mouvement de la jeune Allemagne dont se réclame Heinrich Heine, 1797-1856, déçu du romantisme liant étroitement littérature et engagement politique. Enfin, une tendance tournée vers le passé national est illustrée surtout par le Suisse-allemand Konrad Ferdinand Meyer, 1825-1898. En Angleterre, initié par Alfred Tennyson, 1809-1892, et Robert Browning, 1812-1898, le réalisme se prolonge jusqu'aux années 1880 grâce au roman historique. Le grand maître du roman social est alors Charles Dickens, 1812-1870. C'est aussi l'époque des romancières. Filles de pasteurs, les sœurs Brontë, notamment Charlotte, 1816-1855, et Emily, 1818-1848, tiennent une place importante dans l'histoire du roman. Elles laissent deux chefs-d'œuvre, respectivement Jane Eyre et Les Hauts de Hurlevent. George Eliot, 1819-1880, pseudonyme de Mary Ann Evans, se limite à décrire des âmes simples. Le moulin sur la flosse, Silas Marner. Aux États-Unis, la littérature américaine affirme son autonomie dans la seconde moitié du siècle. Au seuil du XXe, l'Amérique exerce même une certaine influence en Europe, grâce à Henry James, 1843-1916, maître du roman psychologique et fantastique, et en poésie Henry Wadsworth Longfellow, 1807-1882, et Walt Whitman, 1819-1892. Le but de Whitman est d'exprimer la nature profonde de l'Amérique. Son lyrisme en rythme libre psalmodié constitue un nouveau style répondant au mythe démocratique du pays. Feuilles d'herbe, commencée en 1855, achevée en 1892. Même tendance chez Emily Dickinson, 1830-1886. Le roman américain gagne lui aussi en importance. Ses représentants les plus marquants sont Herman Melville, 1819-1891, Moby Dick, Harriet Beecher Stowe, 1811-1896, La case de l'oncle Tom, roman anti-esclavagiste, Bret Hart, 1839-1902, La chance de Roaring Camp, Louisa May Alcott, 1832-1888, Les quatre filles du docteur March, classique de la littérature enfantine, et Jack London, 1870-1910. Le roman historique connaît un renouveau. Ben-Hur de Lewis Wallace, 1827-1905, remporte un succès mondial. En Russie, la seconde partie du XIXe siècle voit la rénovation du roman russe consacré à l'analyse psychologique autant qu'à la critique sociale. Les Oblitchitelli, accusateurs, dénoncent l'injustice sociale, s'attachant à expliquer les rapports entre l'individu et l'ensemble de la société. Fyodor Dostoïevski, 1821-1881, utilise un réalisme poussé pour mettre à nu la profondeur de l'âme humaine, la violence de la révolte contre l'oppression tsariste, à laquelle il vouait une hostilité déclarée, de Crime et châtiment 1866 jusqu'aux frères Karamazov 1880. Il dépeint ses héros aux prises avec ce problème et glorifie dans ses romans la solidarité humaine et l'amour pour éviter un nihilisme à la Flaubert. La seule voie de salut est l'humilité. Moins nationaliste, Léon Tolstoï, 1828-1910, est plus préoccupé par l'Évangile qui, poussé jusqu'à l'absurde, mène tout droit à l'anarchisme, résurrection. En cherchant le sens de la vie, il se crée une religion personnelle et s'oppose à l'Église officielle russe avec laquelle il rompt, la jugeant trop corrompue. Guerre et paix est le tableau de la société russe pendant les guerres napoléoniennes, à la fois épopée, fresque historique et roman psychologique. Le naturalisme. Si le réalisme refuse l'exaltation romantique du moi et se donne pour tâche de montrer l'individu tel qu'il est, le naturalisme veut pousser encore plus loin l'exigence de réalité en tenant compte à la fois du poids de l'hérédité et de celui des conditions sociales. Moins intimiste que le réalisme, il se veut aussi rigoureux dans son approche de l'homme que le scientifique devant ses lois et ses équations. En France, Émile Zola, 1840-1902, propose dans le roman expérimental d'appliquer à la littérature une méthode d'expérimentation quasiment scientifique. Il est convaincu que les comportements humains, les sentiments, les traits de caractère sont conditionnés par le milieu social et l'hérédité. Dans cette mouvance se retrouvent Joris Karl Huysmans, 1848-1907, Marthe, histoire d'une fille, à rebours, Guy de Maupassant, 1850-1893, Octave Mirbeau, 1848-1917, Jules Vallès, 1833-1885. Œuvre maîtresse de Zola, Les Rougon-Macquart, au sous-titre évocateur d'Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, est publié en 1871, date de la fortune des Rougon et 1893 pour le docteur Pascal. En 20 volumes, Zola met en scène le destin des hommes ouvriers de l'Assommoir, 1877, courtisanes comme Nana, 1880, mineurs de Germinal, 1885, paysans exploités de la terre, 1887. Zola connaît une célébrité particulière liée à son courageux engagement pour la défense de Dreyfus. J'accuse, publié dans l'Aurore du 13 janvier 1898.
N'oubliez pas, les soirées de Médan. C'est en 1878 qu'Émile Zola achète à Médan, un trou charmant, près de Poissy, dans les Yvelines, une maison qui permet de recevoir des amis, d'autres romanciers notamment. La douceur des lieux, le jour durant plus longtemps, incite les convives à se lancer dans des discussions à l'infini sur la nature et la valeur de l'écriture. 6 écrivains particulièrement assidus forment le groupe de Médan. Léon Hennick, Joris Karl Huysmans, Henri Séard, Guy de Maupassant, Paul Alexis et Émile Zola. Les soirées de Médan est également le titre d'un recueil de 6 nouvelles, chacune écrite par l'un des membres du groupe. L'attaque du moulin de Zola, Boule de suie de Maupassant, Sac à dos de Huysmans, La saignée de Séard, L'affaire du Grand Sept de Hennick et Après la bataille d'Alexis.
En Allemagne. L'influence d'Émile Zola se fait sentir directement en Allemagne dans la pièce de Gerhard Hauptmann, 1862-1946, Avant le lever du soleil, 1889, consacrée aux méfaits de l'alcoolisme et à ses répercussions dans une famille. La particularité d'Hauptmann se situe dans son absence d'engagement ou de solution. L'individu dans ses pièces est essentiellement vécu comme impuissant. Le naturalisme vit une mutation avec les frères Heinrich, 1871-1950, et Thomas Mann, 1875-1955. Le premier considère le romancier naturaliste comme un socialiste engagé dans la satire sociale de l'Allemagne de Guillaume II. Dans Professeur Unrat, 1905, porté à l'écran par Josef von Sternberg sous le titre de L'Ange Bleu, 1930, il ridiculise les travers d'un pédagogue tyrannique tombé sous la coupe d'une femme de petite vertu et dénonce l'hypocrisie de la morale intransigeante prônée aux élèves. Son frère, Thomas, dans Les Bundenbrook, 1902, retrace le destin d'une dynastie de marchands. Le destin ultime de l'artiste est crûment évoqué dans Mort à Venise, 1911. En Norvège. Henrik Ibsen, 1828-1906, écrit des drames dans la tradition romantique avant que son théâtre n'évolue vers la critique sociale et la morale, Maison de poupée, 1879. Quand nous nous réveillons d'entre les morts, 1899, évoque une angoisse métaphysique rendue plus poignante par les aspects les plus réalistes de la vie quotidienne qui ne sont plus masqués par les convenances sociales. Pour Ibsen, les choix ultimes appartiennent à l'individu, sans souci des règles d'aucune morale. Ces personnages sont confrontés à une solitude intolérable. En Suède, August Strindberg, 1849-1912, s'intéresse dans son œuvre à la sexualité, à la fois comme source de tare congénitale, mais aussi pour dénoncer l'hypocrisie bourgeoise dont elle est revêtue par la société. La danse de la mort, 1900, place sur une scène de théâtre les drames de l'insatisfaction et des désirs refoulés du couple.